Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Les carnets de l'apothicaire T03 est le troisième volume de la série adaptée de l'univers imaginé par Natsu Yuga. Avec un scénario attribué à Itsuki Nanao et des dessins de Neko Courage dans cette édition française. Ce manga de mystère historique imaginaire suit Mao Mao, jeune experte en remèdes et substances toxiques devenue servante dans la cour intérieure impériale. Le volume prolonge les enjeux établis autour de son savoir médical, de sa position sociale fragile et des rivalités qui structurent le palais. Après avoir aidé Lifa, Mao Mao est appelée à participer à la réception d'hiver comme dame de compagnie et goûteuse de Gyokuyo. Cette fonction place la question du poison au centre du récit, mais sert aussi à explorer les rapports de pouvoir, les apparences et les risques liés au protocole. Le tome vise moins une aventure autonome qu'une progression dans une enquête de cour, où observer, déduire et taire une part de ses compétences deviennent des moyens de survie. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la réception d'hiver transforme le banquet en espace de danger politique. La réception d'hiver fournit au tome un cadre particulièrement révélateur de la cour intérieure. Le banquet rassemble des figures importantes, impose une étiquette stricte et fait coexister des intérêts qui ne peuvent pas toujours être exprimés ouvertement. Dans cet environnement, manger et boire ne relèvent plus de gestes ordinaires. Chaque plat, chaque service et chaque déplacement peuvent devenir le support d'une menace ou d'une démonstration de rang. La présence de Mao Mao comme goûteuse de Gyokuyo donne une fonction concrète à son expertise. Elle ne se contente pas de commenter un danger, après coup son rôle consiste à réduire un risque immédiat qui pèse sur une personne de haut statut. Le récit montre ainsi que le poison est aussi un instrument politique. Il permet d'attaquer sans confrontation publique et oblige les personnages à interpréter des signes parfois minimes. Le banquet contraste avec son apparence festive. La magnificence, la hiérarchie et la politesse renforcent en réalité la difficulté de déceler les intentions. Ce choix de décor distingue le volume par sa capacité à faire naître le suspense dans des gestes codifiés plutôt que dans une action spectaculaire. Deuxièmement, le savoir de Mao Mao repose sur la méthode plutôt que sur une intuition magique. Mao Mao aborde les incidents de la cour avec les réflexes acquis auprès d'une apothicaire, elle observe les symptômes. Examine les circonstances et formule des hypothèses avant de conclure. Cette démarche est essentielle au plaisir du volume. Les énigmes ne sont pas résolues par un pouvoir exceptionnel ou par une révélation arbitraire, mais par l'attention portée aux matières, aux usages et aux comportements. Son intérêt marqué pour les poisons donne au personnage une compétence identifiable, tout en évitant de la réduire à une simple guérisseuse. Elle connaît aussi la nécessité de distinguer un indice, une coïncidence et une preuve. Le lecteur est invité à suivre ses raisonnements, y compris lorsque les informations restent incomplètes. Cette forme d'enquête souligne les limites du savoir. Reconnaître un danger ne suffit pas toujours à désigner un responsable ni à agir librement dans un palais régi par la hiérarchie. Le tome associe donc la curiosité scientifique à une prudence sociale. Mao Mao progresse parce qu'elle analyse avec précision, mais elle survit aussi parce qu'elle mesure les conséquences de ce qu'elle comprend. Cette articulation donne une texture rationnelle au récit historique imaginaire. Troisièmement, la fonction de goûteuse révèle la vulnérabilité derrière les privilèges de Gyokuyo. Le statut élevé de Gyokuyo semble lui assurer confort et protection, mais la nécessité d'une goûteuse rappelle que les faveurs impériales exposent aussi à des dangers particuliers. Dans la cour intérieure, la proximité du pouvoir rend les femmes influentes visibles, dépendantes du personnel et susceptibles de devenir des cibles. Mao Mao occupe alors une place ambiguë. Elle reste une servante au rang modeste, mais sa compétence la rend indispensable dans des situations sensibles. Ce décalage nourrit une analyse sociale discrète, les responsabilités ne correspondent pas nécessairement au rang officiel. Et une personne peu considérée peut détenir un savoir décisif. La relation professionnelle entre Mao Mao et Gyokuyo structure ce volume sans effacer la distance qui les sépare. Mao Mao agit dans l'intérêt de sa maîtresse, tout en sachant que son propre statut ne la protège pas des conséquences d'une erreur ou d'une indiscrétion. Le rôle de goûteuse matérialise cette tension. Il exige de la loyauté, de la vigilance et une exposition directe au risque. En faisant de cette mission un élément majeur de l'intrigue, le tome montre que la sécurité dans le palais repose sur une chaîne de confiance fragile, traversée par les rapports de dépendance. Quatrièmement, cacher ses compétences devient une stratégie de survie dans la cour intérieure. Mao Mao possède des connaissances qui attirent naturellement l'attention, mais le palais ne récompense pas toujours la compétence visible. Dans un lieu où les complots, les alliances et les rivalités peuvent modifier la valeur d'une information, afficher trop clairement son savoir peut conduire à être sollicité, surveillé ou utilisé. Le tome insiste ainsi sur une contrainte centrale de son parcours, elle doit aider sans se placer au centre de toutes les intrigues. Cette retenue ne traduit pas une absence de courage. Elle résulte d'une lecture lucide de sa condition de servante et du fonctionnement de la cour. Une découverte médicale ou toxique peut avoir des implications qui dépassent largement le diagnostic, car elle touche à la réputation de personnes puissantes et à leur place dans la hiérarchie. Mao Mao doit donc choisir ce qu'elle dit, à qui elle le dit et jusqu'où elle poursuit ses déductions. Cette dimension donne une portée sociale au mystère. Le danger ne vient pas uniquement d'une substance nocive, mais aussi de la circulation du savoir. En opposant l'intelligence pratique de Mao Mao aux règles implicites du palais, le volume fait de la discrétion une compétence aussi importante que la connaissance des remèdes. En dernier lieu, le dessin de Neko Courage associe légèreté expressive et tension des enquêtes dans cette version manga. Le travail graphique de Neko Courage contribue fortement à l'équilibre entre mystère de cour et comédie de caractère. Les décors. Les vêtements et les codes de présentation installent une cour impériale imaginaire inspirée d'une Chine ancienne, sans prétendre restituer un cadre historique documentaire. Cette précision visuelle aide cependant à rendre sensible la séparation des rangs, la ritualisation des rencontres et le poids du protocole. Les expressions de Mao Mao jouent un rôle complémentaire. Elles peuvent traduire son enthousiasme très particulier pour les substances toxiques, son irritation ou sa méfiance, et introduisent une vivacité qui empêche le récit de devenir uniquement solennel. Cette légèreté ne dissout pas la menace. Au contraire, elle accentue le contraste lorsque la situation exige une observation sérieuse ou qu'une erreur pourrait avoir de lourdes conséquences. La narration visuelle permet aussi de rythmer les raisonnements objets. Réactions et changements d'atmosphère deviennent des indices accessibles sans longue explication technique. Le volume se distingue ainsi d'une simple adaptation illustrée. Il adapte les enjeux de déduction au langage du manga, en utilisant la mise en scène pour articuler information, humour et suspense au sein d'un même espace. En conclusion, Les carnets de l'apothicaire T03 conviendra au lecteur qui apprécie les mangas de mystère où l'enquête repose sur l'observation plutôt que sur la violence ou la surenchère. Dramatique. Il peut aussi intéresser les amateurs de récits courts, de fiction historique imaginaire et de personnages féminins dont la force tient avant tout à la compétence, à la curiosité et au discernement. La lecture offre un bénéfice intellectuel modeste mais réel, elle invite à considérer les symptômes, les usages sociaux et les rapports de pouvoir comme des éléments reliés dans une même énigme. Mao Mao ne résout pas seulement des problèmes médicaux. Elle doit comprendre ce qu'une découverte permet ou interdit de dire dans une hiérarchie rigide. Ce troisième volume se démarque de nombreux récits de palais par son usage précis de l'apothicairerie comme moteur narratif. Les poisons ne sont pas un simple décor exotique ni une succession de rebondissements. Ils servent à révéler la fragilité des privilèges, les dangers du cérémonial et la valeur stratégique de la discrétion. La réception d'hiver concentre particulièrement bien ces enjeux en transformant un événement officiel en terrain d'enquête. Grâce au dessin expressif et au rythme accessible du manga, le tome maintient aussi un équilibre entre tension, détails de cour et humour. Il est surtout recommandé dans le cadre de la série car sa richesse provient de la continuité des relations et de la place progressivement acquise par Mao Mao dans le palais. Si vous souhaitez soutenir Natsu Yuga, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.